Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Adrien Biassin, avec moi dans mon salon. Donc là, on va inverser les rôles. Depuis que t'es arrivé dans mon appartement, tu fais que me poser des questions. Alors que tu es là pour répondre à des questions pour cette émission qui s'appelle Regarde d'ailleurs. Donc Regarde d'ailleurs, c'est une émission radio qui donne la parole à des auteurs comme toi, hein, des écrivains, mais aussi des voyageurs, des photographes, des réalisateurs, des expatriés, ou aussi des gens immigrés en France, en tout cas tout ce qui touche à l'international, à l'ailleurs, au voyage. Toujours dans cette envie de partager des expériences de vie, soit en France, soit à l'étranger. On m'a parlé de toi il y a quelques temps en me disant « Tiens, il y a un garçon qui habite en Alsace, du côté de Mulhouse, qui voyage en vélo, qui est parti pendant le Covid en vélo. » Donc voilà, j'ai eu envie de prendre ce temps de rencontre et d'échange. Donc dans cette émission, on parlera de cette expérience en vélo en plein Covid, mais pas que. Hein, ce qui va d'abord m'intéresser, c'est un peu ton itinéraire de vie, ton parcours, et quelle est la place qu'occupe le voyage dans ce parcours, et à quel moment surtout le voyage et cette envie d'aller voir ce qui se passait au-delà des frontières est venu à germer en toi. Donc Adrien, on t'écoute.
Merci à toi Alexandre pour cette invitation. C'est vrai que la question du voyage, elle n'est pas si évidente que ça, après de prime abord. J'ai commencé, je suis obligé de partir sur ma biographie personnelle pour comprendre comment je suis rentré dans ce milieu-là. C'est de loin pas une évidence. J'ai grandi dans un milieu qu'on appelle populaire, hein, les classes populaires, dans un quartier dit sensible, à Mulhouse, qui est une ville dans le sud de l'Alsace, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Et donc, dans ma famille, j'ai pas d'intellectuels, il n'y a pas de voyageurs. Et, personne dans ma famille avait le brevet du collège, encore moins le baccalauréat. Et donc, j'ai grandi vraiment dans un univers d'ouvriers, de lutte syndicale, de lutte des classes. Et donc, c'est vraiment mon milieu dans lequel j'ai grandi.
Ton terreau culturel, quoi. Donc, il n'avait rien à voir avec le côté lettré que tu représentes aujourd'hui, parce que tu arrives avec un bouquin dans les mains, tu es en train de lire en m'attendant, et tu écris des livres. Donc, comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que c'est venu à toi?
J'avais 6 ans quand il y a eu les grèves de Juppé en 95. Et ma mère, elle avait le gros ventre, elle était enceinte de mon petit frère. Et c'est des moments qui sont marquants. Et ensuite, il y a eu... le divorce des parents, les violences familiales. Et progressivement, on m'a offert mon premier vélo à l'âge de 10 ans. Et ma mère, elle m'a obligé à respecter un périmètre autour de chez moi. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si je vais au-delà de ce périmètre? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce quartier? Parce que quand on est de ces classes-là, sociales, on voyage pas. La seule fois où j'allais en Allemagne, alors que tous les Alsaciens vont en Allemagne pour acheter, faire plein de choses, nous c'était juste pour acheter des cigarettes, ça coûtait moins cher, vous voyez, c'était pas le côté culturel ou découvrir l'autre culture. Dans ma famille, personne parle l'anglais ou l'allemand. Et ensuite j'ai fait des études, j'ai eu mon bac scientifique, j'étais premier de la famille à avoir un bac scientifique, spécialité mathématiques, tout le monde me prenait pour un extraterrestre.
Donc c'était pas la volonté de tes parents que de te pousser dans des hautes études, c'est vraiment toi qui as suivi ce chemin, mais sans que les parents, parce que souvent c'est ça, c'est les parents veulent que leur enfant fasse scientifique dans l'idée d'avoir plus de débouchés possible.
Non, ils savaient même pas que... En fait, ils pouvaient pas... C'était pas dans l'imaginaire familial, le baccalauréat général, encore moins scientifique. Et ensuite, parce que j'avais des bonnes notes, en travaillant pas énormément, j'ai fini en classe préparatoire, maths sup maths spé, pendant 2 ans. Là, pareil, je reste à Mulhouse, je bouge pas, à cet âge-là, je suis encore jamais allé à Paris de ma vie. Donc, j'avais jamais pris l'avion. La seule fois où je suis allé à Berlin, c'était en voyage scolaire. Et c'est tout, quoi. Enfin, j'avais vraiment une vision du monde qui se délimitait entre le lycée et ma maison, quoi. C'était vraiment très très limité. Et pourtant, j'étais toujours je lisais beaucoup de géographie, ça m'intéressait beaucoup, les drapeaux, les pays. Je comprenais déjà qu'il y avait un horizon. Puis ensuite, en maths spé, donc en deuxième année de prépa, j'avais plus envie d'intégrer les écoles d'ingénieurs, mais les écoles de commerce. Et là, j'ai passé les concours des grandes écoles et j'ai intégré Skima Business School, qui est une top 5, top 6 en France. Et là, j'ai, en première année, je me souviens toute ma vie, j'étais à Sophia Antipolis, sur le campus de, dans le sud de la France. Alors ça fait bizarre, hein, quand on quitte les classes populaires et les quartiers sensibles pour se retrouver comme ça avec des gens du monde entier. Mon voisin de droite, c'était un Chinois, et mon voisin de gauche, il venait d'Arabie Saoudite. Et je parlais très mal anglais, et j'avais réussi les concours parce que j'étais doux en maths, et les langues, c'était catastrophique à cette époque-là. Et je me suis retrouvé avec, à mon étage, que des garçons de d'Inde, Arabie Saoudite, Chine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? J'arrivais pas à parler avec eux, c'était catastrophique. Et en fait, très rapidement, je m'adapte avec eux, je commence à m'imprégner de cette culture-là, de ces cultures-là.
Donc là, tu as quel âge?
Moi, je suis entre Bac plus 3 à 19 ans, ouais. Et ensuite, je pars faire ma deuxième année à Lille. Puis après, j'ai fait une année de césure. C'est aussi important de parler là-dessus. J'étais en salle des marchés. Donc je faisais du training chez Barclays et chez Natixis. Ça, c'est aussi une autre vie. Puis après, je suis parti à Toronto. J'ai amélioré, j'ai perfectionné mon anglais. Et là, c'était ouvert. C'était la porte ouverte. Pour la première fois, je prends l'avion, le long courrier. Là, c'est l'amour d'autres cultures. Après, ça reste des Saxons. Mais pour moi, le Canada, ça représentait l'autre bout du monde.
Mais donc c'est quand même le système scolaire et les études qui t'ont permis de t'affranchir de ta territorialité ici à Mulhouse et de t'ouvrir sur le reste du monde.
Au départ, c'est ça, oui. J'aurais aimé que ce soit la lecture, j'aurais aimé que ce soit le théâtre, j'aurais aimé que ce soit le cinéma, mais j'ai pas été nourri dans ce terreau culturel.
Mais du coup, on a souvent, quand on est enfant, besoin d'obtenir ou d'avoir la reconnaissance et l'amour de ses parents. Et on va des fois se caler plus ou moins sur le modèle qui nous est montré ou qui nous est imposé. Mais là, tu es en train de complètement briser les codes culturels de ton terreau éducatif. J'ai l'impression que tu as pris vraiment une direction complètement différente. Comment est-ce que tes parents l'ont vécu, ou comment est-ce que toi, tu as pu rester en lien avec eux dans l'image que j'en ai? Vous avez quand même deux vies très différentes.
Alors moi, du côté paternel, c'est un père extrêmement violent, physiquement, verbalement, psychologiquement, avec qui je suis plus en contact depuis 2003. Et ma mère, l'autre côté, qui a subi des violences physiques, verbales et psychologiques, qui est toujours aujourd'hui, mais a des difficultés pour remonter la pente. Et c'est pour ça que j'ai précisé tout en préambule que je viens d'un milieu social précaire, parce qu'il y a aussi des formes d'intimité qui sont pas les mêmes que dans d'autres milieux. C'est plus dur, en fait, c'est des milieux beaucoup plus durs. Mais c'était toujours cet amour de la rencontre qui m'a commencé à m'activer. Et puis vu que je commençais à parler anglais, vu que j'étais de nature très curieuse, je me suis dit, dès que je pouvais saisir l'opportunité de partir, je le faisais. Et je voyais qu'à chaque fois, j'apprenais énormément, ça me faisait grandir.
Donc quelque part, le voyage, ou en tout cas la possibilité d'aller vivre ailleurs que chez toi, a permis de te construire.
À ce moment-là, on s'en rend pas compte. À ce moment-là, dans une étape d'une vie, on s'en rend pas compte. C'est quand on commence à reculer, à se voir un peu dans le rétroviseur, qu'on voit que la matrice interne, psychologique et sa propre histoire personnelle, comment elle est intriquée aussi avec ses voyages. Et après Toronto, je suis parti faire un autre master aux États-Unis sur la côte Est. Et là, j'ai commencé à comprendre les flux qu'il y avait. J'ai commencé à comprendre comment ma petite personne, elle pouvait influencer aussi les communautés dans lesquelles j'habitais. Parce que j'habitais ce qu'est la communauté noire, qu'on appelle ça, les blacks, qu'on appelle ça aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout la même logique en France. Et j'ai commencé à comprendre vraiment mon origine sociale à travers eux. Comme eux, ils étaient aussi rejetés aux États-Unis. Parce que c'est vrai qu'en France, par similarité, on peut comprendre, il y a des points de convergence. Et à partir de là, en fait, j'étais un peu usé de la finance, il n'y avait pas de sens. Donc j'ai décidé de bifurquer une première fois. Et j'ai entrepris de travailler pour... à Londres et à Hambourg, en Allemagne, j'étais le bras droit d'un directeur stratégique d'une multinationale américaine. On était dans les systèmes d'information. Puis encore une fois, au bout de 6 mois là-dedans, je me dis, mais ça n'a pas de sens, on fait que de fait que travailler pour optimiser, performer. Et moi, ça me plaisait parce que je prenais souvent l'avion, j'allais souvent à Londres, à Paris, à Hambourg. C'est plus ça, l'attrait du prolétaire qui sort de son quartier, ça me plaisait beaucoup. Et puis bon, ben, mon éthique et mon intellect faisaient que je comprenais rapidement que c'était une impasse, que c'était absurde. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, ben, j'ai fait tous ces études, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc j'ai décidé d'intégrer un master à l'École Nationale d'Administration, donc l'ENA à Strasbourg. Et au bout de 3 mois à l'ENA, j'ai commencé un doctorat en histoire et en économie sur les risques d'effondrement en Sud d'Alsace. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est je pensais pas intégrer l'ENA, et parce que c'est quand même très sélectif. Et j'ai pris un vieux vélo à 50 balles chez Emmaüs après avoir candidaté. Et puis je suis parti loin. Je suis parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Et j'ai traversé l'ex-Yougoslavie une première fois à l'âge de 24 ans. Et je pars avec un ami qui lui sortait aussi des grandes écoles et était haut fonctionnaire. Et moi je lui dis, bah viens, on va en ex-Yougo. Et puis on a pris vraiment des vieux vélos. Hein. Quand je dis c'est des trucs, aujourd'hui je vois ça, je me dis, mais comment j'ai fait quoi? C'était des vélos rouillés, les pneus, on a capté en arrivant sur place qu'en fait ils étaient fissurés, que le caoutchouc se détachait, j'avais même pas de frein. Puis la bière à l'époque, en 2014, en Hongrie, Croatie, dans ces pays-là, ça valait 50 centimes la pinte. Et puis bon, ben, on abusait un peu de ce breuvage.
Mais pourquoi le vélo et pourquoi les pays de l'Est, hein? Comment est-ce que tu as défini et ton itinéraire et le moyen de locomotion? Est-ce qu'il y avait cette notion d'écologie déjà peut-être? Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de voyage lent, voyage à vélo. Enfin voilà, quelles ont été tes motivations à toi à cette époque-là? On est en 2004, hein, tu dis.
On est en 2014. 14. Et non, l'écologie c'était toujours pas là. Parce que en classe prépa et dans les grandes écoles, on n'aborde pas ces questions-là. Enfin, en tout cas, dans cette décennie-là, c'était pas la thématique. Au mieux, c'était le développement durable, dont on sait aujourd'hui qu'il est une funesterie sans nom. Donc là, c'était vraiment partir à la découverte de pays qu'on connaissait pas. C'était vraiment deux jeunes, on avait 23-24 ans, à la découverte de contrées lointaines qui nous faisaient rêver, parce qu'on parlait de Budapest, on parlait de Zagreb, et puis encore une fois, pour le Mulhousien que j'étais, ça semblait loin. Et puis en plus j'avais candidaté à l'ENA, je pensais que c'était pas, que j'allais jamais être admissible, donc je fais Budapest Zagreb à vélo. C'est difficile, c'est la première fois de ma vie que je fais 100 km par jour, 150, il faisait chaud, il faisait 40 degrés, puis c'est des pays quand même, on a l'impression d'être dans la France des années 2000, fin des années 90, il y a quand même y a un espace-temps quand même qu'on ressent. Et puis même à cette époque-là j'avais pas les grilles de lecture que j'ai aujourd'hui. Donc je ressens sans pouvoir nommer les choses. Donc c'est encore plus difficile.
Je veux bien aussi que tu me partages un petit peu ce que tu découvres en vélo, parce que finalement, voyager en vélo, c'est aussi tout un apprentissage. C'est trouver un endroit pour poser sa tente, où manger, c'est pas rien un voyage en vélo. Donc j'imagine que tu découvres aussi ça dans ce premier voyage. Donc est-ce que tu peux revenir sur cette aventure en vélo et les bénéfices que tu as découverts dans ce mode de vie et de mouvement?
Je suis parti, au niveau compétences vélo, j'étais à zéro. Au niveau compétences survie, j'étais à zéro. Au niveau compétences bivouac et dormir dehors, j'avais jamais fait. C'était vraiment le niveau zéro de tout. Hein. C'est pour ça que dans le livre, là, j'explique aux gens que de là où on est, on peut quand même réussir à aller loin et faire des belles choses. Et j'ai appris. Alors bien sûr, au début, c'était catastrophique. Si maintenant, moi, je me regarde par rapport à ce que je réalisais lors de mes premiers voyages, j'aurais beaucoup de pitié pour mon moi du passé et pour les duos que j'ai formés avec mes amis.
Et pourtant, tu l'as fait. Des fois, c'est bien aussi d'y aller de manière complètement innocente sans savoir dans quoi on se lance. Parce que si on anticipe, des fois, on le fait pas.
Ah non, mais c'était totalement improbable. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais parti avec un jean, j'avais des chaussures de ville avec lesquelles j'ai passé les euros de l'ENA. Et surtout le bivouac, c'est-à-dire que quand on est urbain, on n'a pas l'habitude de dormir dehors, à la belle étoile. En tout cas, j'ai jamais eu cette possibilité-là avant, et j'ai pris goût, en fait, progressivement. Ça me faisait de plus en plus de... Ça m'aspirait, ça me transcendait, ça me réveillait. Et à ce moment-là, encore une fois, j'avais pas cette capacité à pouvoir nommer les choses. Et ensuite, en arrivant à Zagreb, je reçois un email Et c'est un email de Lena qui me dit que je suis admissible. Et je me souviendrai toujours, j'avais les traces des lunettes, j'étais carbonisé, j'étais rouge, parce que là, on voit pas, mais je suis un blond aux yeux bleus, quoi. Et j'étais carbonisé, j'avais les traces des lunettes, les traces des gants. Je me suis dit, mais c'est pas possible, dans 10 jours, ils vont voir que... Bah, ils vont comprendre que j'étais pas en train de réviser comme les autres. Et donc, j'ai vite pris mon vélo, je suis allé jusqu'à Ljubljana, en Slovénie, et là, j'ai pris un train pour rentrer, pour me préparer aux oraux, et j'ai intégré, je les ai eus, les oraux. Et ça, c'était mon premier voyage. C'était hyper intense parce que c'était pas grand-chose. C'était 600 km, mais pour un premier, c'est l'impression d'être à l'eau. On a l'impression d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars. On a l'impression que c'est exceptionnel. Aujourd'hui, quand je fais 600 km, je me dis, c'est bon, une semaine, c'est réglé, voilà, c'est vite fait. Mais à ce moment-là, de ma vie, de ma biographie, là, ça m'avait l'air extraordinaire. Et la preuve, quand j'en parle, j'en ai un énorme souvenir. Et puis d'autant plus qu'au bout, c'était l'ENA, quoi, l'École nationale d'administration, où ça aussi, c'est que ça paraît improbable. Puis je me suis dit que je vais y arriver, parce que si j'ai fait tout ça à vélo, ben pourquoi pas réussir, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu rentres en France en train, tu fais tes euros, tu te retrouves à l'ENA. Combien de temps ça dure cette époque-là, et à quel âge tu sors de l'ENA?
L'ENA, ça dure mon master, ça dure 2 ans. Et dans le cadre de cette formation-là, j'ai dû travailler pour le ministère de la Défense. Donc j'étais conseiller au ministère de la Défense à Paris en 2015-2016, pendant les attentats à Paris. Donc avec mes équipes, on a dû gérer à l'école militaire de Paris l'après-attentat. J'ai aussi travaillé pour les services des renseignements français en 2016 à Toulon, dans la marine. Et donc là, j'étais avec des ce qu'on appelle les oreilles d'or. C'est ceux qui ont, comme toi, des casques. Il faut écouter le son, mais dans les sous-marins, parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans les sous-marins.
T'as plusieurs vies, en fait. C'est intéressant, parce que je pensais rencontrer quelqu'un qui fait le tour du monde à vélo, mais en fait, il s'est passé plein de choses avant.
Oui, mais oui, parce qu'en fait, quand on me demande ce que je fais, en fait, j'ai plusieurs vies. Et c'est ça aussi, j'ai pas un parcours linéaire, et j'encourage les gens à rentrer dans leur particularité, dans leur pluralisme, et d'accepter d'être tantôt ci, tantôt ça. Donc moi, en ce moment, je suis écrivain, d'autres fois, je serai chercheur, parce que et puis d'autres fois, je serai, si je veux être saltimbanque, je le serai. Et dans les services de renseignement, j'ai travaillé avec des oreilles d'or, et eux, ils me racontaient, c'était des anciens, à l'époque, ils dormaient dans les sous-marins à diesel, où ils faisaient la banette chaude, tu vois, ça veut dire que, il y avait qu'un seul lit pour 2 gars, et donc ils faisaient des tournées comme ça, et ils me racontaient quand ils étaient à droite, à gauche, dans le monde entier, c'était des militaires, c'était des sous-mariniers, donc des gars qui vivent dans des boîtes de conserve à 300 mètres de profondeur, qui vont d'une parée d'eau dans le monde, Et puis quand j'étais en salle des marchés, j'ai commencé à voir les vices de la finance. Puis après, quand j'ai travaillé avec eux, j'ai commencé à voir les vices de la géopolitique internationale. Et là, j'ai commencé à développer des allergies envers tous ces grands mots, grands concepts, et à comprendre que j'avais pas ma place dans ces endroits-là, qui, pour moi, provoquaient des conséquences directes sur des peuples, sur des citoyens, et qui sont très représentatifs du milieu familial dans lequel j'ai grandi. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas mettre mon talent, mes intelligences au service de la destruction du corps social, des États-nations. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé, 3 mois après, toujours en 2014, une thèse de doctorat qui m'a pris 5 ans de ma vie, sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait des études de prospective en Sud-Alsace à l'horizon 2040. C'est là où j'ai démontré des risques d'effondrement. Et c'est la première thèse de doctorat à l'échelle territoriale qui démontre des risques d'effondrement en Europe. Et dans mon jury, j'avais Pablo Servigne qui est connu, j'avais Dominique Bourg qui est également connu, puis j'avais d'autres professeurs de la Sorbonne. Et ça m'a propulsé, mais à un niveau stratosphérique. Ça veut dire que je suis vraiment rentré dans l'écologie radicale, où j'ai intégré la destruction du vivant, la destruction des écosystèmes. J'ai vraiment intégré aussi toutes les conséquences, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène ou la poubelle océane, ce qu'on veut, cette destruction de la planète par l'homme. C'est tout récent, ces phénomènes-là, on n'en parlait pas il y a 8-9 ans.
Alors, on va quand même développer un peu le mot effondrement. Donc, c'est vrai que c'est Pablo Servigne qui l'a un petit peu démocratisé avec son bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». L'effondrement, tu parles d'écologie radicale. Donc, toi, tu disais que tu n'étais pas vraiment là-dedans dans tes jeunes années. Donc, comment tu t'es intéressé à la théorie de l'effondrement? Comment tu es venu à ça? Et parle-nous de ce que c'est cet effondrement, juste pour le définir, pour que toi, auditeur, tu comprennes ce qui se cache derrière le mot, de ce qu'on peut entendre, ou quelle est la définition du mot effondrement.
En fait, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'étais vraiment sur un espace territorial, le sud d'Alsace, et par des méthodes différentes, à chaque fois, j'arrivais à la conclusion de risque d'effondrement, c'est-à-dire d'élitement social, d'élitement des services publics, effondrement du vivant, destruction du vivant, effondrement local, enfin ici, du système hydrique, des systèmes des sols, la qualité des sols, la qualité de l'air. Et tout ce mélange, ça faisait un cocktail explosif basé sur une histoire industrielle alsacienne et mulhousienne qui a plus de 300 ans. C'est l'une des plus vieilles histoires industrielles d'Europe. Très, très glorieuse histoire industrielle. Et donc, je démontre ça. Et à un moment donné, je me dis, mais si le sud d'Alsace s'effondre, c'est pas grave. Maintenant que je parle anglais et que j'ai commencé à voyager, je vais pouvoir partir. Et puis ma curiosité a posé la question de... Je me suis posé des questions à savoir, est-ce que c'est pareil ailleurs? Donc là, j'ai commencé à lire les glaciologues, les biologistes, les géographes, dans plein de disciplines différentes. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi convergeaient vers des conclusions similaires aux miennes, et cette fois-ci à l'échelle nationale ou internationale. Et là, j'ai fait une grosse dépression, parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. J'ai compris qu'en fait, ça concernait tout le monde. Et là, j'ai compris que le sud de l'Alsace était certes un des risques d'effondrement, mais ça faisait un peu tache de léopard, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, ça va péter plus qu'ailleurs, mais ailleurs aussi, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'en rend compte que ça commence déjà partout dans plein de pays. Souvent, c'est des pays qui sont déjà... La vie est déjà plus difficile qu'en France. Et surtout, en sud de l'Alsace, on a des particularités qui font que... Pour certains, c'est déjà très difficile. Et donc là, j'ai toute ma propre ontologie intérieure et ma matrice intérieure qui change, qui mute profondément. Et en parallèle de tout ça, donc ma thèse doctorale, je la soutiens en 2019. Et donc de 2014, là où j'ai fait mon premier voyage en ex-Yougo, jusqu'en 2019, j'en ai entrepris d'autres. Et donc à chaque fois, je reprenais le même vélo, 2012, et je partais toujours vers l'Est. Et pour répondre aussi à une de tes questions, pourquoi l'Est? Je sais pas, peut-être que c'est mon âme, j'ai une âme slave, j'ai l'impression d'être attiré par ça, c'est naturel. On a toujours, il y en a qui aiment certains repas, certains qui ont un certain type de lecture ou certains types de pays. Moi, je suis attiré naturellement par l'Est. Et l'Est de l'Europe est très chargé en histoire, très chargé en géographie, très chargé en humanité. C'est des points de convergence du XXe siècle et très puissants, très fortes. Mais comme j'avais commencé à acquérir des compétences en bivouac et en autonomie, j'y allais de plus en plus loin, de plus en plus loin. Puis un jour, en 2016, après avoir travaillé pour les services de renseignement, je suis parti faire une prépa militaire d'officier dans un régiment d'infanterie marine. Et je suis sorti vraiment blessé, j'ai eu une grosse blessure au dos, et les médecins pensaient que j'en avais pour 2 mois d'arrêt, vu l'état de mon dos, et je leur ai dit « Ok, je suis rentré à Mulhouse pour la convalescence », et puis au bout de 2 semaines, j'ai craqué, j'ai pris mon vélo, j'en pouvais plus, et j'ai fait Mulhouse-Tallinn en Estonie, à vélo, donc 3000 km en 1 mois. C'était aussi un magnifique voyage dans des pays que j'avais jamais... dans lesquels j'avais jamais pédalé.
Mais là, quand tu pars en vélo, quel est le projet derrière ça? C'est quelque chose de physique, te surpasser physiquement, faire des rencontres, faire un maximum de kilomètres tous les jours, rencontrer le plus de gens possible. Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu nourris comme espoir, comme espérance ou comme vision dans ce type de voyage?
Pour oublier en fait le stress, l'intensité dans des ministères, l'intensité des hautes études. C'était se dire, j'ai 1 mois, 2 mois devant moi, j'y vais, advienne que pourra. Et il y a la fougue des 25 ans, des 30 ans. Et moi, j'ai pas peur d'aller vers l'autre. même si j'avais beaucoup de traumas liés à mon enfance, liés aussi au conditionnement social dans lequel j'ai grandi, ça m'a permis de me guérir. Il y a des espaces entiers où ça m'a guéri. Ça veut dire quand j'ai eu des problèmes mécaniques, quand j'ai eu des problèmes de santé, j'étais hospitalisé à Vilnius. Le fait que des gens m'aident, le fait que des gens qui parlent pas ma langue, qui ont peut-être même pas on n'a pas la même histoire, le fait qu'ils me tendent leur main, j'ai vu des formes d'humanité que j'avais pas ressenti chez moi à Mulhouse, dans mon cercle familial, et ça m'a guéri dans des espaces intérieurs. Et ça m'a fait beaucoup de bien, au point qu'à un moment donné, quand je revenais à Mulhouse, j'étais un peu triste de reperdre ce que j'avais goûté. Et là, c'est là où j'ai encore grandi, en me disant, mais en fait, je peux le reproduire ça autour de moi. Donc c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Donc j'intégrais, je l'assimilais, et je le propageais autour de moi. Donc déjà, ça va me permettre de mûrir, de comprendre, d'être encore plus fin dans mes analyses. Et je ne regrette absolument pas. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui voudront vous freiner dans vos voyages, c'est juste leur transfert de leur peur. C'est juste le transfert de leurs émotions sur vous. Faut juste écouter son feu intérieur. Et moi, c'est sûr que j'ai eu peur la première fois que je suis parti. Jamais bivouaqué dehors, jamais fait de vélo. Et en fait, on se rend compte que ça devient simple une fois qu'on y va dedans. Alors c'est sûr que c'est physique, hein, quand on fait 100-150 km par jour, il fait 40 degrés, vous mangez mal, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas non plus l'habitude de bien... J'avais pas un régime équilibré. Et puis au fur et à mesure que je fais ça, et puis en même temps, en parallèle, j'ai ma thèse doctorat où je suis en train de voir tous ces risques d'effondrement. Et là, cette fois-ci, ma manière de partir change. Avant, c'était pour me régénérer, pour fuir un stress. Et là, c'était plutôt... Ça a vraiment basculé. C'était vraiment... Je veux profiter des derniers instants de paix en Europe. Ça veut dire que je veux être un témoin des dernières formes de sécurité, de paix publique qui subsistent en Europe par rapport au dérèglement climatique, par rapport au réchauffement, par rapport à l'extinction du vivant. Parce que je sais qu'au-delà d'un degré 5, un degré, même voire 2 degrés, ça va tellement tout bouleverser que maintenir les démocraties libérales de l'Occident risque d'être très 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 compliqué. Et surtout qu'en tant qu'historien aussi, avec ma thèse doctorat en histoire, j'étais histoire contemporaine, donc 20e siècle, je connais que trop bien les régimes autoritaires du 20e siècle. Et je sais qu'il faut de peu pour basculer. Cette fois-ci.
On va essayer de pas rendre ce podcast trop anxiogène. J'ai plutôt relevé ce que tu disais, cette notion de peur, hein, souvent les limites, et c'est nous qui nous les posons, soit nous-mêmes, soit notre environnement familial, notre environnement social, mais toi tu as prouvé finalement qu'on peut complètement casser ce carcan qui des fois nous emprisonne en y allant, en mettant un pas devant l'autre, en pédalant, en avançant, et se découvrir aussi des potentiels qu'on a, qu'on ne soupçonnait pas avoir. De mettre en avant qu'on a tous la capacité de réaliser nos rêves.
Je sais pas si on a tous la capacité de réaliser nos rêves, ça dépend d'où on est. Je veux dire, j'ai de la chance, c'est le hasard qui a fait que je suis né en France. J'avais une chance sur 100. Après, j'ai eu moins de chance d'être né dans une famille populaire que d'autres. On est beaucoup prédestiné, il y a ce qu'on appelle, on est beaucoup déterminé par notre aspect social. Bourdieu l'avait déjà démontré. Puis à contrario, il y a aussi des gens, et dans les grandes écoles, il n'y avait que ça, c'est-à-dire des gens issus des classes sociales très favorisées, mais pour autant, ils n'ont jamais fait ce que j'ai fait. Quand eux, ils voyagent, ils prennent l'avion, ils partent d'aéroport en aéroport, et ils visitent plein d'autres pays, mais ils ne passent pas par des endroits, des zones grises, ce que j'appelle les zones grises, des endroits où les locaux, ils voient pour la première fois un Français ou quelqu'un à vélo. Moi, c'est ça qui m'anime, ça qui me plaît. Moi, j'estime que j'apprends plus en faisant ça qu'en suivant Airbnb, qu'en suivant je ne sais quel site internet. Je pars toujours sans GPS. Je pars toujours... mon seul guide, c'est l'intuition.
Ouais, c'est ça, c'est la boussole, elle est intérieure quelque part. Ouais. Quand on saute sans filet, le filet souvent apparaît.
C'est la boussole de l'intuition. L'intuition au départ avec cette mise en... pour récupérer pendant mes périodes de stress, pour mes premières années de thèse. Puis après, quand j'ai compris qu'il y avait les risques d'effondrement, c'était vraiment profiter de la paix, continuer à apprendre des autres. Et en fait, l'intuition que j'ai développée par... Et puis en plus, l'intuition, elle se développe quand on dort dehors. quand on bivouaque, quand on se baigne nu dans les rivières, quand on mange dehors, quand on est H24 dehors, à un moment donné, on a tous les sens qui s'aiguisent. Vos pensées, quand vous commencez à les visualiser, elles se réalisent dans la journée ou dans les jours qui viennent, et à partir de là, ça devient magique. Mon dernier voyage à vélo, c'est notamment ça qui a fait que c'était tellement intense tous les jours, que de penser à quelque chose et qu'elle se réalise dans les heures, qu'à un moment donné, je me demandais si j'étais pas moi-même dans un rêve, si j'étais pas moi-même en train de délirer, tellement que c'était pas, et surtout ça a duré 6 mois, c'était tellement intense.
Adrien, merci, merci à toi.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.